Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Les lignes bougent. En RDC, le président de la CENI, la commission électorale a déclaré que les élections doivent consacrer l'alternance au niveau suprême. Et selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais en visite à Washington, le président Kabila entend respecter la constitution et quitter le pouvoir après les élections du 23 décembre 2018. On écoute le porte-parole du gouvernement congolais.
Nous sommes en train de terminer aujourd'hui même la phase qui est essentielle d'enregistrement des électeurs dans les Kasaï où nous avons eu quelques retards, mais qu'avec cette fin de la phase d'enregistrement des électeurs, nous sommes sur la ligne droite pour respecter le calendrier tel qu'il a été établi par la commission électorale. Le 23 décembre, nous avons les trois élections en une séquence. En aucun cas, le président ne va violer la Constitution. En aucun cas, nous ne sommes en procédure de modification de la Constitution qui passe par un référendum. Je ne sais pas si on a une idée de la procédure lourde pour un référendum. Nous sommes dans une procédure de préparatif d'élection. Tout se fera conformément à la Constitution et le président respectera la Constitution et celle-ci ne prévoit pas que le président puisse se représenter pour une troisième fois consécutive.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, une interview à retrouver sur notre site voafrique.com. Au Tchad, la grève générale et illimitée des fonctionnaires entre dans sa troisième journée ce jeudi. Selon les organisateurs, le mouvement est largement suivi. Les autorités avaient annoncé une baisse des salaires, puis ont renoncé à la mesure. Mais à la fin de ce mois de janvier, des fonctionnaires ont découvert avec surprise et colère la baisse de leurs émoluments. Younous Mahadji, le président de l'Union des syndicats du Tchad, explique les enjeux de la grève.
C'est la volonté des travailleurs qui sont excédés par la manière dont le gouvernement est en train de vouloir le mettre dans une situation de pauvreté totale. Alors qu'on sait bien que la crise est une invention totale du gouvernement et du président de la République qui est tout l'argent du pays et qui sont retrouvés avec plus d'argent au niveau du Tchad parce que l'argent est parti dans les poches des individus, dans les comptes des paradis fiscaux, etc. Et nous ne pouvons pas du tout accepter, nous, que c'est nous qui payons ce gâchis. Et il y a d'autres éléments plus graves encore qui sont là. Le gouvernement fait des choses telles que les Tchadiens tout entiers sont énervés et ne peuvent plus supporter cette manière de la gouvernance.
Younous Mahadji, le président de l'Union des syndicats du Tchad. Un attentat suicide a fait 4 morts hier dans un camp pour personnes déplacées dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Le kamikaze a escaladé la clôture du camp de Dalori dans les environs de la ville et a fait exploser sa bombe parmi les personnes déplacées. 44 personnes ont été blessées en plus des 4 décédés. La force mixte multinationale qui combat Boko Haram dans la région du lac Tchad continue de libérer des otages, mais les personnes libérées des griffes de Boko Haram n'ont pas encore livré leur dernière bataille. Reportage Moki Edwin Kinzeka à Zamaï, dans le nord du Cameroun, récit Abdourahmane Dia.
4 jeeps de la force multinationale viennent d'arriver à Zamaï, un village dans le nord du Cameroun, frontalier avec le Nigeria. 16 personnes qui étaient otages de Boko Haram sont dans les véhicules, dont Lamine Mahmoudou.
Les gens de Boko Haram sont venus à Gouzavreket pour nous ramener ça au Nigeria à Tchénini. On a fait 2 ans là-bas. On souffre seulement. On ne donne pas nous à manger. Il n'y a pas l'argent. Nous sommes très sales. Il n'y a pas de l'eau même. L'eau même, on boit ça pour le marigot. Le maladie même, c'est quantité de maladies. Beaucoup de gens, les maladies sont tuées comme même. Si tu es parti là-bas, même si tu es un païen, tu es obligé de prier. Si tu ne pries pas, on va te tuer là-bas.
Âgé de 39 ans, Mahmoudou a été libéré le 26 janvier. Pendant une opération menée par l'armée camerounaise, le groupe duquel il faisait partie rejoint des centaines d'anciens otages qui se trouvent dans 2 camps à Zamaï. Astafou Amadou a réussi à s'échapper d'un camp de Boko Haram en même temps qu'une 30aine d'autres femmes.
Il n'y a pas dans notre maison, c'est seulement sur la route. Quand on t'est trouvé sur la route, là, on t'est fouette. On a trouvé la gale là-bas, la maladie des gales, parce qu'il n'y a pas l'eau à boire et tu te laves, il n'y a pas. C'est ça la souffrance. En même nuit, on est venu ici à Mouzogo. On fait 2 jours là-bas, aux routes, pour arriver à Mouzogo.
Les ex-otages veulent rentrer dans leur village mais un responsable du gouvernement camerounais dans la région, Julien Martial Assé, se veut prudent.
On les appelle dans notre jargon les présumés ex-otages de Boko Haram. Nous avons mis ces personnes en confiance au regard de la résurgence de l'insécurité qui sévissait déjà dans notre arrondissement. Nous avons constaté que plus ils étaient ici, plus nous étions la cible de la secte. Et il nous a été instruit de conduire ces personnes à l'intérieur du pays plutôt que de les laisser ici à la frontière.
Le nombre exact d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés par Boko Haram depuis le début de l'insurrection en 2009 n'est pas connu, mais il pourrait être des milliers. Une offensive des forces régionales en 2015 a permis de récupérer de larges portions du territoire qui était sous le contrôle du groupe djihadiste. Dans l'extrême nord du Cameroun, la crainte des attentats suicides est réelle, mais cela n'empêche pas l'élan de solidarité envers les personnes fuyant les atrocités de Boko Haram. Ibrahim Hamawa est un chef coutumier à Zamaï.
S'ils seront là jusqu'à la saison pluvieuse, nous allons leur préparer des champs qu'ils vont travailler comme tous les autres, les premiers venants.
La localité de Zamaï continue d'accueillir d'anciens otages. En décembre, 400 d'entre eux étaient dans les camps de Zamaï et un mois plus tard, le chiffre a grossi à 600 au moins.
Second tour aujourd'hui de la visite d'État du président français, second jour, aujourd'hui donc de la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Tunisie. Le chef de l'État français doit notamment s'adresser ce jeudi au Parlement, l'Assemblée des représentants du peuple, et rencontrer des responsables de la société civile. Toujours en Afrique, il est 6h06 à Washington. La police fédérale américaine a défendu mercredi son intégrité en mettant en doute la véracité d'un rapport parlementaire confidentiel qui l'accuse de partialité dans l'enquête sur la campagne électorale de Donald Trump en 2016. Ce rapport de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, présidée par le républicain David Nunes, est une nouvelle étape dans la bataille politique entre l'administration Trump et l'agence fédérale, jalouse de son indépendance mais accusée d'être anti-Trump. Les démocrates dénoncent un moyen détourné de discréditer l'enquête ouverte en mai 2017 par le procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre le Kremlin et l'équipe de Trump pour influencer la campagne. Washington a placé hier Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, sur la liste noire des terroristes. L'annonce du département d'État ne découragera pas la résistance contre Israël, a réagi le mouvement islamiste palestinien. John Lindon.
Selon le secrétaire d'État Rex Tillerson, Ismaël Haniyeh menace la stabilité au Moyen-Orient et sape le processus de paix avec Israël. Le Hamas, qui était déjà depuis 1997 sur la liste des organisations terroristes, a aussitôt déclaré que la décision des États-Unis n'affaiblirait pas sa lutte contre Israël et que toute pression sur la résistance est vouée à l'échec. Après la décision américaine reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, Ismaël Haniyeh avait estimé que toutes les lignes rouges étaient franchies. De son côté, l'autorité palestinienne refuse depuis toute médiation de Washington dans les négociations de paix avec Israël. Donald Trump, dans son discours sur l'état de l'Union mardi, a réaffirmé sa position sur cette reconnaissance. Il a brandi une nouvelle fois la menace de représailles financières et a demandé au Congrès d'adopter une loi pour garantir que l'aide étrangère américaine aille seulement aux amis de l'Amérique, pas à ses ennemis.
Les États-Unis ont prolongé un statut protégé pour quelques 7000 Syriens se trouvant en territoire américain qui échappent ainsi au risque d'être envoyés vers la Syrie, a annoncé mercredi le ministère de la Sécurité intérieure. La guerre en Syrie a fait depuis 2011 plus de 340 000 morts et des millions de réfugiés et de déplacés. De hauts responsables saoudiens et émiratis de la coalition arabe intervenant au Yémen sont arrivés à Aden, deuxième ville du pays, pour s'assurer du respect d'une trêve après de violents combats entre forces séparatistes et gouvernementales, a rapporté jeudi l'agence WAM des Émirats. Cette délégation militaire a fait le tour de la ville portuaire située dans le sud du Yémen et a rencontré toutes les parties concernées, soulignant la nécessité de respecter le cessez-le-feu et de recentrer les efforts sur les lignes de front contre les rebelles houthis, a précisé l'agence officielle émirati. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal dans 50 minutes et il vous sera présenté par Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
« soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.